Le président iranien a souligné la détermination de la République islamique de transmettre ses expériences et ses acquis aux pays amis, notamment les pays africains. Les brigades Al-Quds ont fait exploser une bombe au passage des militaires israéliens à Tul Karem en Cisjordanie. Et le premier ministre nigérien a déclaré que des contacts étaient en cours pour ouvrir la voie à un retrait très rapide des forces françaises du pays. C'était les principaux titres, en voici le journal. À la tête d'une délégation de haut rang, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, en visite à Téhéran, s'est entretenue ce lundi 4 septembre avec le président de la République islamique, Ebrahim Raisi. Lors de cette rencontre, le président iranien a souligné la détermination de la République islamique de transmettre ses expériences et ses acquis aux pays amis, notamment dans le continent africain. Abordant les relations solides qui existent entre la République islamique d'Iran et la plupart des pays africains depuis la victoire de la révolution islamique, Ebrahim Raisi a salué la résistance des pays africains face au colonialisme et au terrorisme comme une marque de la vigilance de ces pays. Ailleurs, dans ses remarques, le président iranien s'est attardé sur les activités de la commission mixte de coopération économique entre l'Iran et le Burkina Faso, précisant qu'elles faciliteront et accéléreront les échanges commerciaux et favoriseront la coopération bilatérale. Pour sa part, la ministre burkinabé des Affaires étrangères a déclaré que les pays africains, dont le Burkina Faso, se sont inspirés de la résistance de la révolution islamique face à l'arrogance et à l'hégémonie mondiale. Considérant la République islamique comme un pays ami et frère du Burkina Faso, Olivia Rouamba a mis l'accent sur la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales. La ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso s'est également entretenue avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, des questions d'intérêt bilatéral et des développements régionaux et internationaux. La chef de la diplomatie burkinabé a félicité la République islamique pour sa politique étrangère indépendante. Saluant l'invitation officielle de son homologue iranien à se rendre en Iran, Olivia Rouamba fait part de l'intention de son pays de développer les relations tous azimuts avec l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un récent accord conclu pour débloquer les fonds gelés en Corée du Sud ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Lors d'un appel téléphonique lundi 4 septembre avec son homologue sud-coréen Park Jin, les deux parties ont discuté des questions d'intérêt commun les plus importantes au niveau régional et international. Faisant référence au transfert de fonds iraniens des banques sud-coréennes vers la Suisse, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Nous pouvons désormais ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales ». Il a ajouté que la République islamique salue toute initiative susceptible de contribuer à promouvoir les liens entre les deux pays. Plus loin dans ses propos, Amir Abdollahian a déclaré que la promotion des liens avec les pays asiatiques faisait partie des priorités de la politique étrangère du gouvernement iranien. Le plus haut diplomate iranien a également exprimé la volonté de Téhéran de renforcer la coopération avec Séoul dans le cadre des organisations régionales et internationales. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a pour sa part salué l'accord sur le déblocage des fonds iraniens gelés dans son pays, affirmant que cette décision montrait l'engagement pratique de Séoul envers le gouvernement et le peuple iranien. Soulignant les récents développements positifs dans les relations entre les deux pays, il a exprimé la volonté de Séoul de renforcer la coopération avec Téhéran dans le but de promouvoir la paix et la stabilité en Asie de l'Ouest. Les brigades Al-Quds, branche militaire du mouvement du djihad islamique de la Palestine, ont annoncé avoir fait exploser la bombe Saif 1 à haute intensité explosive au passage des forces israéliennes dans le camp de Nour Shams, dans la ville de Tul Karem, en Cisjordanie. Les brigades Al-Quds ont annoncé dans un communiqué que nos combattants ont frappé les forces d'occupation sionistes qui ont attaqué le camp de Nour Shams avec des balles et des bombes puissantes dans la nuit de lundi à mardi 5 septembre. Notre unité du génie à Tul Karem a pu cibler directement les munitions des militaires du régime avec la bombe Saif 1 qui a une haute intensité explosive, indique le communiqué. La branche militaire du djihad islamique a souligné par ailleurs que les forces d'occupation sionistes avaient attaqué le camp de Nour Shams avec des balles et des bombes sur différents axes. Des forces israéliennes ont tué un adolescent palestinien lors d'un raid contre le camp de réfugiés de Nour Shams, dans le secteur nord-ouest de la Cisjordanie occupée, au milieu d'une forte augmentation des raids militaires israéliens meurtriers ainsi que de la violence des colons contre les Palestiniens. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources locales, a rapporté qu'un grand nombre de soldats israéliens appuyés par deux bulldozers appartenant aux militaires ont pris d'assaut le camp de réfugiés de Nour Shams, situé à 3 km à l'est de Tout-Karem, aux premières heures de mardi. Des soldats israéliens ont tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes sur de jeunes Palestiniens. Les bulldozers ont également détruit la rue principale adjacente à l'entrée du camp, ainsi que plusieurs véhicules garés dans la zone. Un autre Palestinien a également été grièvement blessé lors de l'agression de l'armée israélienne et a été transporté dans un hôpital voisin pour recevoir des soins médicaux. Lundi 4 septembre, l'armée syrienne a pris pour cible les bases et les lieux de rassemblement du groupe terroriste Ansar al-Tawhid dans le gouvernorat d'Idlib. Selon la chaîne d'information syrienne Al-Ikhbariya, l'armée syrienne a mené des attaques à l'artillerie et à la roquette contre les positions du groupe terroriste Ansar al-Tawhid autour des zones d'Al-Fatira et d'Al-Bara à Jabal al-Zawiya, situées à Idlib. Samedi, l'armée syrienne a bombardé des positions des terroristes dans le nord et le nord-ouest de la Syrie. Elle a ciblé des bases des terroristes dans les villages de Kafarama et Kafratal, dans la banlieue ouest d'Alep, avec des tirs d'artillerie. Des drones lancés par l'Ukraine contre Moscou ont été abattus ce mardi matin, 5 septembre, dans le district d'Istra, en périphérie de Moscou et dans la région de Kalouga, ont déclaré le ministère russe de la Défense et le maire de Moscou. Les forces russes ont repoussé 3 attaques des forces armées ukrainiennes dans la direction de Kupiansk, a déclaré à Sputnik le porte-parole du groupe des forces russes Zapad, Sergei Zibiansky. Les forces de défense aérienne russes ont également détruit un autre drone de la région de Tver qui volait vers Moscou sans faire de victimes ni de dégâts, a déclaré mardi le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Plus tôt dans la journée, Sobyanin a déclaré que les forces de défense aérienne russes avaient détruit des drones dans les régions de Kalouga et de Moscou qui tentaient d'attaquer Moscou dans la nuit. Le maire de Moscou a toutefois ajouté qu'une maison avait été endommagée après la chute de débris d'un drone dans le quartier d'Istra, situé à l'ouest de la capitale russe. Sobyanin a également déclaré que les services d'urgence étaient arrivés sur les lieux pour faire face aux conséquences de l'incident. Le gouvernement militaire du premier ministre du Niger a déclaré que des contacts étaient en cours pour ouvrir la voie à un retrait très rapide des forces françaises du pays, alors que le sentiment anti-français continue de monter en flèche parmi les Nigériens. Ali Mahaman Lamine Zain a fait cette remarque lors d'une conférence de presse lundi 4 septembre, déclarant que les discussions en cours devraient permettre aux forces françaises de se retirer très rapidement de ce pays d'Afrique de l'Ouest, où sont stationnés quelques 1500 soldats français. Le nouveau premier ministre nigérien a déclaré également que les autorités du pays appelaient l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, à quitter le pays le plus rapidement possible. Les nouvelles autorités du Niger veulent maintenir des relations avec la France, mais Paris commet des actes inacceptables, a encore ajouté M. Zeid. Le 3 août, les nouveaux dirigeants du Niger ont annoncé la fin des accords militaires avec la France. Depuis lors, les Nigériens organisent des manifestations quotidiennes devant une base militaire abritant les forces françaises dans la capitale, menaçant de prendre d'assaut les installations si les troupes françaises refusent de partir. Le premier ministre a noté qu'en raison du retrait de ces accords, les troupes françaises au Niger se trouvaient désormais dans une position d'illégalité. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis sont derrière la réduction des aides humanitaires au Yémen. L'un des dirigeants du mouvement de résistance yéménite, Nasser Allah, a déclaré que les États-Unis étaient derrière la réduction des aides humanitaires des Nations Unies au Yémen. Mohamed Ali Al-Houssi, haut membre du Conseil politique suprême du Yémen, s'est entretenu lundi avec Corinne Fletcher, directrice régionale du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est. Ils ont discuté des conséquences de la réduction des aides humanitaires au Yémen. Le haut membre du Conseil politique suprême du Yémen a considéré la réduction des aides humanitaires au Yémen comme politique, mettant l'accent sur le fait que cette décision a été prise sous l'ordre des États-Unis, dans une situation où le Yémen était toujours aux prises avec les problèmes économiques en raison de la guerre de 9 ans imposée par l'Arabie saoudite. Le directeur exécutif du PAM, David Beasley, avait averti l'année dernière que le programme alimentaire mondial était à court d'argent et que la guerre en Ukraine pourrait rendre difficile le maintien de ses missions au Yémen. La suspension du programme intervient à un moment où des millions de Yéménites peinent à joindre les deux bouts. Cela est dû à la guerre de 9 ans imposée par l'Arabie saoudite et au blocus qui a paralysé l'économie du pays. Comme les familles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent souvent pas se permettre d'emmener leurs malades à l'hôpital à temps pour qu'ils soient soignés. La chaîne de télévision Al Masira a rapporté que la décision a été prise suite aux pressions américaines visant à augmenter les problèmes et les souffrances des Yéménites. Selon le PAM, 21,6 millions de personnes au Yémen auront besoin d'une aide humanitaire en 2023, et ce alors que 17 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a affirmé que plus de 540 000 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition sévère au Yémen. Les problèmes de santé et les maladies causées par le manque de nourriture et d'eau potable, ainsi que la mauvaise situation économique, font partie des problèmes qui ont touché toutes les couches de la nation yéménite, en particulier les enfants. Selon le ministère yéménite de la Santé, il y a actuellement 4 millions de cas de malnutrition au Yémen. C'est le plus grand nombre recensé dans le monde. Ce chiffre devrait augmenter considérablement, étant donné que le PAM a suspendu son programme.